France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Delphine Rémy Boutang.
Bonsoir.
Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice, la pilote de la journée de la femme digitale qui est déjà dans sa 6e édition ce dimanche 14 avril, édition, sa 7e édition, mais oui, pardon, excusez-moi, à la fin, il y en a déjà eu 6, c'est la 7e. Ce 14 avril, ça se passe à la Maison de la Radio avec laquelle vous avez un partenariat. Cette journée de la femme digitale. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de la lancer? Vous travaillez aujourd'hui dans un bureau de communication qui s'appelle The Bureau, mais je crois que vous avez eu une carrière d'ailleurs assez fulgurante chez IBM, l'un des grands leaders de l'informatique. À quel moment vous vous êtes dit, moi particulièrement, je suis au bon endroit pour lancer cette journée de la femme digitale qui n'est, je crois, pas d'ailleurs qu'une seule journée dans l'année?
Absolument. Je suis rentrée en France en 2013. J'ai vécu 15 ans en Angleterre où j'ai travaillé chez IBM, effectivement. Et quand je suis rentrée en France, j'étais invitée dans plein d'événements autour de l'innovation. Et à cette époque, et encore maintenant, mais j'étais très souvent la seule femme autour de la table à prendre la parole sur ces sujets. Et j'ai pensé qu'il était temps de présenter des femmes rôle modèles qui travaillent dans ce secteur. Et il y en a beaucoup, sauf qu'on ne les voit pas assez et il est temps de les rendre plus visibles.
Ouais, c'est intéressant parce que vous dites qu'on les voit pas assez. Alors déjà, elles sont pas si nombreuses que ça, en tout cas toujours pas. Je crois que les chiffres ont évolué, mais c'est toujours 27% des femmes engagées professionnellement dans le secteur dit numérique, 10%, ou je crois que c'est un peu plus aujourd'hui, à la tête de start-up, 3% qui connaissent vraiment le code. C'est des chiffres quand même assez faibles, très faibles, encore aujourd'hui en France. D'où ça vient, sachant que, et on le sait, il y a eu des films d'ailleurs qui ces derniers temps l'ont mise en lumière pendant très longtemps. Les gens qui étaient les plus proches des ordinateurs, c'était des femmes, c'était des mathématiciennes, c'était des calculatrices. Cette figure très importante de Katherine Johnson qui a été honorée par Barack Obama. Et il y a eu comme une espèce de culture brisée finalement.
Complètement. Donc le numérique, effectivement, c'était les femmes. Hein. Même le code est un langage et c'est une femme qui l'a créé.
Ada Lovelace.
Ada Lovelace. Et puis
la fille de Lord Byron. On ne le sait pas assez.
Oui, et on ne sait pas ce que faisait sa mère, mais on parle beaucoup de son père, mais ouais. Que faisait sa mère et toutes ces femmes comme ça qui, effectivement, ont fait que le numérique existe aujourd'hui. Et d'ailleurs, on leur donnait ce rôle parce qu'on le considérait comme un second rôle, parce qu'elles étaient bonnes à faire du tricot, elles étaient bonnes en maths. Et donc, les militaires considéraient que c'était des femmes à qui on pouvait donner ces seconds rôles. Et puis, dans les années 70, quand le numérique a pris ses lettres de noblesse, les hommes s'y sont engouffrés et nous ont laissé à ce triste chiffre de un petit peu moins de 30%. Ce qui est effectivement inquiétant, aggravant. Alors, même si on se retrouve maintenant depuis 7 ans, c'est quand même toujours sur ce constat que les femmes sont complètement sous-représentées et ce secteur qu'on dit, ce secteur du futur, est en train de s'écrire dans l'inégalité la plus totale. Donc il y a l'urgence de enfin réussir à faire que ce chiffre arrive à, on est 52% de l'humanité, on se doit d'être représenté à 52% de l'humanité sur ces sujets importants, l'intelligence artificielle, les robots sont créés par des hommes, ressembleront à des hommes.
Avec des algorithmes qui souvent ont des biais assez importants à l'égard des femmes. On en parlera d'ailleurs bientôt dans Soft Power avec deux jeunes chercheuses qui travaillent sur la question. Mmh. Avant de revenir sur ces freins et cette situation de fait, est-ce qu'on peut faire pour la changer? Vous citez souvent des chiffres qui me paraissent très intéressants et que je ne connaissais pas. Des chiffres de l'OCDE qui disent que non seulement le secteur numérique serait plus riche culturellement et humainement, parce que souvent on réduit ça à ça, mais serait plus riche en termes de chiffres s'il y avait plus de femmes engagées dedans. C'est un rapport. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport?
Il dit que si on arrivait à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du numérique, alors le PIB européen augmenterait de 9 milliards d'euros.
Incroyable. Comment est-ce qu'on le pense et qu'est-ce que vous pensez justement que les femmes pourraient apporter à cette économie numérique? Alors, c'est assez affreux de poser la question comme ça, mais quels sont peut-être les territoires délaissés ou qu'elles peuvent venir nourrir ou enrichir?
Alors, tous les secteurs, en fait, finalement, se numérisent aujourd'hui, se digitalisent, et donc les femmes apportent cet autre regard. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, c'est simplement qu'il est différent et qu'il doit être, il doit répondre à des problématiques. Des enjeux sociétaux sur lesquels les femmes répondent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les secteurs qui jusqu'à présent étaient dits des secteurs secondaires, les femmes entreprennent dans les services, service, les biens à la personne, la santé, le développement durable.
Les fameux domaines traditionnellement féminins.
Voilà. Or, il se trouve que ces domaines, principalement, ce sont les enjeux de demain. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cette chance inouïe qui est qu'on est là où était le numérique à l'époque, on est déjà très présent dans ces secteurs. Et ces secteurs qui vont devenir ces secteurs des enjeux de demain sur lesquels on doit répondre. D'où l'urgence, effectivement, de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret, après avoir rendu à César ce qui appartient à César.
Alors justement, quels sont les freins? Qu'est-ce que vous pouvez offrir et qu'est-ce que c'est que cette journée de la femme digitale? C'est quoi les principaux freins aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien qu'il y a effectivement le fait que c'est masculin, il y a beaucoup d'autocensure chez les femmes, on parle évidemment de ça, c'est-à-dire de difficultés à s'engager ou à se penser légitime dans certains domaines. Elles sont où? Elles sont pas assez où? Et où est-ce qu'on peut les emmener?
Alors, nous on a identifié trois piliers majeurs sur lesquels on pense qu'on peut faire évoluer les choses. Un, c'est la formation. Se former, tout le temps, apprendre à apprendre, puisque aujourd'hui, c'est plus le gros poisson qui mangera le petit, mais c'est le poisson le plus rapide qui mangera le plus lent. Donc, il faut aller vite, il faut se former rapidement, faire des formations courtes, parce que ce qu'on aura appris dans 5 mois est déjà has-been, tellement ça va tellement vite, etc. Donc, formation, ça, c'est essentiel. Et former jeune, très jeune, casser ses stéréotypes dès le plus jeune âge, et on a des écoles formidables qui l'apprennent, Become Tech, Magic Makers, etc., et qui seront le 17 avril pour cette 7e édition dans cette belle maison ronde. Financement, l'accès au financement, on le sait aujourd'hui, le vrai plafond de verre est réel.
Et vous dites d'ailleurs, ça c'est très intéressant, que les femmes ont du mal à demander beaucoup d'argent à des hommes, parce que les business angels sont souvent des hommes. C'est même pas qu'eux ne donnent pas l'argent, c'est qu'elles le voient trop petit. Or, on le sait, les startups, il y en a très peu qui finissent par transformer l'essai. Et il faut viser juste. Quand on demande trop petit, on a peu de chances de survivre. Et les femmes demandent trop peu.
Absolument. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça, c'est vraiment une chose, effectivement. Et de passer de start-up à scale-up, parce qu'on parle beaucoup de la start-up nation, mais je pense que c'est important de parler de la scale-up nation.
C'est-à-dire celle qui a transformé l'essai et qui a réussi à devenir une entreprise qui existe. Ouais.
Exactement. Et ça prend à peu près 7 ans. On considère que c'est à peu près 7 ans pour passer de start-up à scale-up. Et dans ces 7 ans, il y a des trous noirs, il y a des moments où il faut effectivement demander de l'argent pour accélérer un business, etc. Il y a plein de façons de demander. C'est pas systématiquement les levées de fonds, parce que pour ça, levée de fonds, il faut parler valorisation, etc. On peut aller demander à son banquier de l'argent pour accélérer, pour aller recruter des nouvelles équipes, etc. Et il se trouve que les femmes, effectivement, le font principalement avec leurs fonds propres. Pour plein de raisons, parce qu'en face d'elles, elles ont des hommes qui pensent et considèrent que les sujets sur lesquels elles veulent lever de l'argent ne correspondent pas à leur vision. Donc, il n'y a pas assez de femmes dans ces secteurs. Et on verra des femmes le 17 avril qui nous présenteront des fonds d'investissement comme Stéphanie Hospital, de One Hack Time, etc. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel, l'accès au financement. Et puis, le troisième point qu'on a identifié, donc formation, financement, en sachant que le chiffre quand même incroyable sur lequel il faut quand même s'arrêter 2 secondes, c'est les fonds d'investissement en France, c'est 7,7%. Donc les femmes ont levé 7,7% des fonds disponibles. Et dans le monde, c'est 2,2%.
Donc en fait, on est catastrophique en France, mais on est moins catastrophique qu'à l'échelle mondiale. Ouais. Bon, c'est déjà une pas si mauvaise idée. Formation,
financement et le troisième, c'est confiance. Parce que je crois qu'on ne peut pas être qu'on n'a pas vu. Et plus on aura de rôle modèle, et plus on verra des femmes qui réussissent, mais qui réussissent de plein de façons. C'est pas seulement en ayant levé 300 milliards d'euros qu'on est la réussite, elle est plurielle. Et elle se doit d'être justement de présenter des rôles modèles qui sont venus de tous horizons pour justement donner envie, d'oser, d'innover, d'entreprendre ou d'intraprendre. Le message de dire « créez votre start-up, c'est facile », etc., c'est pas vrai. C'est un vrai sacerdoce, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'appelés, peu d'élus, beaucoup d'entreprises meurent. Au bout de 2 ans, il faut rester, etc. Mais la confiance, à mon avis, reste quand même essentielle. Et d'avoir justement ces femmes qui présentent ces réussites vont donner envie à d'autres femmes de se lancer aussi, d'entreprendre ou d'entreprendre. En tout cas, d'entreprendre leur vie.
Et vous dites souvent, d'ailleurs, les femmes ne rêvent plus d'être numéro une, cette fameuse figure de la femme qui réussit dans un secteur traditionnel, soit en adoptant les codes masculins, soit en se construisant contre. Là, il y a une nécessité de créer un réseau. Donc, c'est ce que vous faites au-delà de cette fameuse journée du 17 avril. Comment est-ce qu'il vit ce réseau? Qu'est-ce qu'elle est aussi, la manière dont il continue à faire exister cette communauté et cette communauté presque exclusivement féminine? Il n'y a pas que des femmes.
Pas que des femmes, parce que je pense que c'est ensemble qu'on construira ce monde qu'on veut meilleur et plus équilibré. Chaque année, on fait une étude pour essayer de percer et de comprendre ces mystères, de pourquoi les femmes sont si sous-représentées. Et un des leviers qu'on a identifié, et on pose la question, hein, de quoi avez-vous besoin pour percer dans ces secteurs-là ? Les femmes avaient répondu quelque chose qui paraît très simple, c'est de réseauter, de networker. Les hommes le font formidablement bien, et ça, on doit prendre exemple d'eux. Et ce réseau doit s'agrandir et c'est comme ça qu'on crée aussi des événements tout au long de l'année puisqu'on ne change pas le monde en un jour, mais c'est tout au long de l'année qu'on a ces rencontres pour réseauter, pour networker, pour se recommander entre nous et pour réussir. Et ce réseau maintenant qui se lance à l'international puisqu'on lance une édition en Afrique.
J'ai vu ça à Continent où les femmes, pour le coup, sont très nombreuses à entreprendre et où il y a un beau terreau à faire. Merci beaucoup Delphine Rémy-Boutang. La journée de la femme digitale, ça se tient donc le 17 avril prochain. Là, c'est dans quelques jours et c'est à la Maison de la Radio. On peut venir y participer, on peut regarder aussi ce que vous faites sur Internet pour se connecter, celles qui auraient des velléités.
Absolument, sur la journée de la femme digitale.com et le 17 avril à Paris et le 13 juin à Dakar.
Merci beaucoup.